Messieurs, je voudrais en quelques mots vous donner les différents moments de ce séminaire qui portent sur les faux messies. Une remarque préalable, nous avons eu l'expérience cette année, à la suite des deux premiers séminaires sur les faux dieux et les faux prophètes, d'un emploi du langage et du vocabulaire que nous employons. Il y a toujours dans ces termes clés de faux dieux, faux prophètes, faux messies, au moins deux sens. Faux dieux, cela peut être des idoles, des valeurs, des fausses valeurs. Faux prophètes, cela peut être des prophètes de mensonges. Cela peut être aussi, tout simplement dans un sens plus généralisé, des tribuns. Des tribuns qui parlent de la vérité ou qui parlent de contre-vérité. Il y a donc deux niveaux de langage que nous allons retrouver, je suppose, dans ce séminaire aussi, les faux messies. Le terme de messie désigne de façon très directe, très précise, une catégorie biblique que nous étudions dans les surtextes, dans les cours du matin et de l'après-midi. Mais il est inévitable que ce terme soit aussi employé pour parler, disons, de leader politique, d'initiateur de mouvements d'idées et de mouvements de société. Et il est donc nécessaire d'avoir à l'esprit cette précision de langage, de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion de thème. Avant de céder la parole à Monsieur Gérard Naon, qui présentera la séance de ce soir, je voudrais tout simplement vous donner l'horaire des études. Tous les matins, à 10h30 jusqu'à 12h30, nous étudions un texte du Rav Kook sur la messianité de Joseph et la messianité de David. Les après-midi, à 6h30 jusqu'à 8h, nous étudions un texte de Maïmonide, du Mishneh Torah, dans Ilchot Melachim, sur la messianité d'Israël. Étant donné les circonstances de cette semaine, qui sont un peu particulières, comme vous le savez sans doute, et les cours de l'après-midi seront faits simultanément par le docteur Prince et par moi-même. Nous avons eu une séance cet après-midi que j'ai dirigée. Demain, c'est le docteur Prince qui la dirigera à 6h30. Mercredi, à la même heure, nous retrouverons le texte que nous avons commencé cet après-midi. Et jeudi, à 6h30, 18h30, de nouveau le docteur Prince sur le même texte de Maïmonide, chapitres 11 et 12 du Mishneh Torah. Ce soir, nous devons avoir une communication de monsieur Finkielkraut sur la logique interne des messianismes révolutionnaires. Je vais immédiatement passer la parole à monsieur Gérard Naon qui présentera le sujet, simplement en indiquant que s'il y a des problèmes de vocabulaire, nous pourrons en discuter ensuite dans le débat qui suivra.
Ayant l'honneur de présider cette séance, dont la conférence de monsieur Alain Finkielkraut doit occuper la meilleure part, je ne vous infligerai pas un exposé conforme au titre imprimé sur le programme. Titre qui, comme les sous-titres de certains articles de presse, sont dus à la rédaction du programme et non à l'auteur. Pour tracer un itinéraire des mouvements messianiques dans l'histoire juive, Bar Korba, Sabbatai Tzvi, Jacob Frank, la soirée ne suffirait pas. Il nous faut préciser que nous n'envisageons ici ni la doctrine de la rédemption, ni l'attente messianique juive à travers l'histoire, mais seulement son paroxysme. Dans cette optique, l'épisode de Sabbatai Tzvi est absolument unique. Et j'en veux pour preuve une image, un tableau fugace de messianisme dans l'histoire, tout différent. Mesdames, Messieurs, le confesseur de Jeanne d'Arc, frère Richard, racontait en avril 1429 que depuis un peu, il était venu de Syrie comme de Jérusalem. Et là, il rencontra plusieurs tourbes, plusieurs foules, de juifs qu'il interrogea. Et ils lui dirent pour vrai que Messia était né, lequel Messia leur devait rendre leur héritage, c'est à savoir la terre de promission. Et s'en allait vers Babylone, à Tourbe. Et selon la Sainte Écriture, celui Messia étant Christ, lequel doit naître en la cité de Babylone, qui jadis fut chef des royaumes des Persans. Il doit être nourri en Bethsaïda et conversé en Coronaïm en sa jouvence. Et ce qu'elle, notre Seigneur, dit, ve, ibi, Bethsaïda, ve, Coronaïm. Ce sont des citations du Nouveau Testament. Ces foules de juifs en route vers Babylone, entendez, la Mésopotamie, Bagdad, en quête du Messie, le grand recueil de sources sur les mouvements messianiques d'Aaron Zev Ashkoli, son grand recueil en hébreu qui est classique, paru à Jérusalem en 1956, n'en souffle mot. Le savant historien a pourtant dépouillé les auteurs arabes, grecs, latins et naturellement hébreux, et verser toute la lumière possible sur les faux messies multiples et leurs partisans. S'il a négligé le journal d'un bourgeois de Paris, 1405-1449, ce dernier visait d'une certaine manière assez juste, en mettant en scène par deux fois ces tourbes, ces foules de juifs en voyage, d'où notre itinéraire. À travers l'histoire, des foules de juifs cheminant à la rencontre du Messie interrompent le cours habituel de leur existence, et c'est là un phénomène quasi permanent de l'histoire juive. Le spécialiste éclaire le déroulement de nombre de mouvements messianiques locaux ou régionaux durant le Moyen-Âge. Convient-il, à la manière de nos historiens traditionnels, de parler le moins possible des faux messies? Mais c'est justement le contraire de ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'est nouveau. Et des foules crédules, entre guillemets, qu'ils égarèrent. Faut-il justifier les dirigeants de communautés qui mirent sous le boisseau, qui firent disparaître parfois livres et documents relatant, entre guillemets, des époques peu glorieuses de notre passé. Et en tout cas, ce qui est impardonnable, irrationnel. Peut-on, avec sévérité, décrire les faux messies, et là, je me permets, je ne sais si c'est tout à fait orthodoxe, de mettre des guillemets provisoires, comme des charlatans, de vulgaires imposteurs, altérés de pouvoir ou d'argent, et leurs fidèles comme les victimes d'hallucinations collectives. Sorte de plantes vénéneuses dans l'exquis jardin du messianisme. Expression d'un historien de la doctrine messianique, un des premiers, Joseph Sarachek. L'historien d'aujourd'hui considérerait volontiers qu'il convient de traiter avec dignité, voire un minimum d'équité et de sympathie, les protagonistes de ces mouvements qui nous permettent de suivre les lignes de force de l'histoire juive, au lieu d'être condamné à les deviner dans le filigrane de cette même histoire. Parmi les mouvements messianiques de l'histoire juive, les itinéraires cités dans le titre de cette brève communication sont fort différents. Le premier, celui de Bar Korba, prend la forme d'un soulèvement militaire contre l'occupant romain de la terre d'Israël de 133 à 135. Trois années durant, il restaure l'État détruit deux générations plus tôt avant de succomber sous la contre-offensive d'Adrien. si le mouvement est somme toute classique, si les découvertes récentes de documents du désert de Juda le font aujourd'hui sortir de la légende, il reste géographiquement limité au pays d'Israël. Quant au mouvement messianique du Moyen-Âge, multiple, dont les mouvements que cite Maïmonide dans l'Épître au Yémen, il reste confiné dans une province, dans quelques petites localités, mais il n'ébranle pas le peuple juif en son entier. Toute différente à Pax et l'aventure de Shabbatai Tzvi au XVIIe siècle. Aventure, certes, on ne pourrait, souligne M. Scholem, créditer Shabbatai Tzvi lui-même d'aucun enseignement, d'aucune parole même passée à la postérité. Lui-même, à l'heure décisive, se convertit à l'islam pour sauver sa vie. Aussi bien ne disposait-il d'aucun moyen militaire ou politique pour asseoir son royaume. Seulement, pour la première fois dans l'histoire, le peuple, en sa quasi-totalité, a suivi un prétendu messie, un faux messie. L'explication par des tensions sociales entre classes défavorisées et marchands riches ne tient guère. Et nous savons maintenant, d'après les études faites surtout par M. Yosef Kaplan de l'Université de Jérusalem, toute récente, sur Amsterdam face au mouvement messianique de Shabbatai Tzvi, que ses partisans, majoritaires dans la communauté, d'une manière extrêmement frappante, ses partisans se recrutaient aussi bien parmi les gens aisés, voire très riches, que parmi les pauvres. Quant aux rabbins, pratiquement tous, à l'exception peut-être de Yosef ben Aaron Sasportas, encore était-il à Hambourg à ce moment-là, mais il était de rang. À l'exception de Sasportas, il est resté comme Sasportas dans la bibliographie. Et on dispute à ce sujet. Tous l'ont suivi. Les partisans du Messie se recrutent dans toutes les classes. On peut expliquer aussi, historiquement, et ça se trouve dans tous les livres, par le poids de l'expulsion d'Espagne sur les mentalités juives traumatisées, ou encore sur les massacres tout proches. Nous sommes en 1666, et les massacres de Khmelnytsky en Russie blanche viennent de se dérouler une décennie et demie avant, 1648-1649. Cette explication n'est pas non plus très vraisemblable, parce que le mouvement messianique de Shabbatai Tzvi est essentiellement un mouvement qui se déroule à travers l'ère séfarade dans l'Empire ottoman. Et tous les voyages, puisqu'il y a itinéraire de Shabbatai Tzvi, qui transforme ce groupe mystique qui est le sien en un déferlement populaire, s'accomplit également à travers l'Empire ottoman. Particulièrement de Smyrne à Jérusalem, à l'Égypte, à Constantinople. On pourrait évidemment, par cet itinéraire, comprendre quelque peu le mouvement. Mais l'explication géographique, s'il en était une, n'inclut pas l'Europe, et particulièrement l'Europe du Nord, où en un temps très court, quelques mois de fin 1665 et début 1666, les communautés les plus établies, je dirais, de l'establishment, comme Amsterdam, Hambourg et puis un peu plus au sud, Avignon, basculent dans le camp, dans le temps messianique aussi, stoppant le cours normal de la vie économique. Car c'est cela, la rupture messianique se traduit dans les faits par l'arrêt des affaires, si l'on peut dire, et que tous les voyageurs remarquent partout. Il est plus spécifié dans l'Empire ottoman que les Juifs ne songent qu'à faire pénitence et que les magasins ne fonctionnent plus, les échanges sont paralysés, et c'est valable également vers le nord. De cela, nous avons un écho pour le Nord bien connu dans les mémoires de cette bonne dame qui est Glückel Hameln, mémoire traduit, comme vous savez, en français il y a quelques années. Incarcéré plus tard, placé devant l'alternative d'être exécuté ou d'apostasier, Shabbatai Tzvi apostasie. Gershom Scholem fournit du mouvement la première synthèse scientifique montrant la conjonction qui se produit entre les communautés juives de l'ère séfarade, principalement modelée par la mystique lourianique de Safed, et le Messie de Smyrne, Shabbatai Tzvi, d'autre part. Il est vrai que l'apostasie de Shabbatai Tzvi entraîne l'apaisement du mouvement et son entrée dans la clandestinité. La secte du Messie apostat se maintient pourtant, mais cela devient une secte. Ce n'est plus le mouvement messianique qui emporte l'histoire juive, le peuple juif en son entier. L'histoire de la secte elle-même, qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, mérite une attention neuve et requiert elle aussi une explication. Le mouvement de Jacob Frank n'a pas tellement de rapport avec le précédent. Le rapport, il est dans le sous-titre imprimé de la conférence de ce soir, mais je crois que c'est un des rares. Si, il y a un rapport. Tous deux sont nés à 100 ans exactement de distance, l'un en 1626, l'autre en 1726. Mais cela ne nous apporte guère d'explication. Le mouvement de Jacob Frank, c'est véritablement un mouvement sectaire qui s'organise par des tournées, par des émissaires, à travers l'Est européen, à travers l'ère ashkénaze. Oh, ce serait un peu simple de parler de mouvement séfarade avec Shabbatai Tzvi, dont on évoque parfois les ascendances ashkénazes possibles. Et pour Jacob Frank, il faut bien remarquer que s'il se fait appeler Frank et Raham Frank, c'est justement qu'il a des prétentions séfarades. Secte conquérante qui secrète, elle, un système, et même un système de gouvernement, et une idéologie. Une idéologie où l'on retrouve un des traits du messianisme, une idéologie anti-nominianiste. Sans doute, sous le couvert d'un rapprochement avec la chrétienté, pour accomplir, dit-il, la fameuse promesse de Jacob en Genèse 33-14, lorsque Jacob a rencontré Ésaü et que Ésaü lui a proposé sa conduite, Jacob lui répond que mon Seigneur marche devant, son serviteur, moi-même, j'irai plus lentement au pas des bêtes, du bétail et des enfants, jusqu'à ce que j'arrive jusque chez mon Seigneur à Séir. Or, Jacob n'est pas venu au pays d'Ésaü. Et dans la mythologie et en même temps l'idéologie des adhérents de Jacob Frank, il y avait ce thème, et c'est cela Jacob Frank, c'est le rapprochement, de même que les sabbataïstes se sont rapprochés jusqu'à la conversion de l'islam, tout en constituant des groupes à part, de même Jacob Frank, mais lui, tout était rationalisé, il avait organisé un certain nombre de conditions qu'il avait posées à l'Église, leur permettant de rester un groupe à part, avec ses observances à part, ses mariages consanguins, endogames, Mais l'Église ne s'est pas montrée tellement regardante. Les adhérents de Franck proclament, et c'est là qu'apparaît très nettement ce courant antinominianiste, l'endroit où nous allons n'est sujet à aucune loi, parce que tout cela est du côté de la mort. Mais nous, nous allons à la vie. En fait, de connivence avec les catholiques, à l'obédience desquels ils promettent de se ranger, les franquistes organisent à Lvov, du 17 juillet au 10 septembre 1759, une disputatio entre les rabbins et leur enseignement, contre les rabbins et leur enseignement. Et bon nombre de franquistes se convertissent publiquement au catholicisme. Les franquistes, ils diffèrent en cela des partisans de Sabbatai Zvi, dotèrent leur mouvement d'une organisation sophistiquée, d'une diplomatie ouverte sur les autorités non-juives. On ne sait pas encore exactement, M. Scholem a entrepris l'enquête et son compte-rendu de l'ensemble n'a pas été encore ni égalé ni dépassé, et laisse de très nombreux points d'interrogation sur les services politiques, diplomatiques, voire d'espionnage que pouvaient offrir dans différentes villes les antennes franquistes. Et surtout, les franquistes ont des finances bien gérées sur lesquelles la lumière n'a pas été faite. Mais il n'y eut pas de raz-de-marée comparable à celui du XVIIe siècle. Gershom Scholem affirmait qu'après Shabbatai Tzvi, aucun mouvement messianique à l'échelle du peuple juif dans son ensemble n'était plus possible. D'une manière ou d'une autre, un mouvement messianique, mais nous n'essaierons pas de leur chercher un dénominateur commun, signifie une rupture immédiate du cours normal des choses. Le cours normal des choses, ce que vous appelez Aolam Hazeh, c'est l'existence orientée vers l'avènement messianique. Mais le changer, c'est entreprendre une action militaire avec Bar Korba, mystique avec Shabbatai Tzvi, diplomatique avec Jacob Frank, et d'autres voies seraient peut-être possibles. Il s'agit de forcer l'entrée du royaume, de forcer la rédemption, la fin. Il est patent que lors des trois occurrences retenues ici, une seule s'est étendue au peuple juif en son entier, celle de Shabbatai Tzvi. L'étude scientifique de la mystique juive, défendue et illustrée par le regretté Gershom Scholem, devrait fournir une clé, non seulement pour l'histoire religieuse d'Israël, considérée sous l'angle de la mystique, et spécialement de la Kabbale lourianique, mais pour son histoire tout court. C'est la doctrine messianique elle-même, qui de toute manière sous-tend les mouvements messianiques, est-elle théologique plutôt que politique? Contrairement à ce qu'à la suite de Maïmonide ont affirmé nombre d'historiens, qu'elle soit théologique et politique ou politique, la pratique, c'est-à-dire le mouvement messianique, est-il pourvu d'une logique interne qu'il nous appartient d'approcher? C'est dire, avec quelle curiosité, avec quel intérêt, quelle impatience, nous allons entendre M. Alain Finkielkraut rechercher la logique interne des messianismes révolutionnaires. Agrégé de l'université, ayant enseigné à l'université de Berkeley, historien, écrivain, Alain Finkielkraut est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le Juif imaginaire, Le nouveau désordre amoureux, avec Pascal Bruckner, L'avenir d'une négation, Le refus d'Israël. Nous lui laissons la parole.
Monsieur Naon, vous avez posé beaucoup de questions, et j'espère que dans le débat tout à l'heure, nous y reviendrons. Et vous nous avez introduit au temps contemporain. Nous écoutons avec vous, Monsieur Finkielkraut.
Dans un livre qui s'appelle « Précis de décomposition », au début de ce livre, le philosophe, ou plutôt le moraliste roumain, qui écrit en français, Cioran, dit, s'en prend au fanatisme, décrit le fanatisme et dit « L'histoire n'est qu'un défilé de faux absolus et ce qui manque à l'homme, ce qui lui manque depuis toujours, c'est une sorte de faculté d'indifférence. Il ne sait pas assez être indifférent, il a la passion de ses idées, la volonté de les ériger en seules idées justes. Et c'est à cela que l'histoire doit ses calvaires, ses convulsions et ses carnages. Ce que Cioran dit ici, c'est en termes très, très percutants et très beaux, une idée assez communément répandue, selon laquelle l'essence du fanatisme est religieuse. Autrement dit, c'est la religion qui, dans l'homme, le pousse vers le pire, le pousse à la violence, et au fond, peu importe que cette religion ait pour référence Dieu ou la raison, c'est le comportement religieux en général qu'il faut mettre en cause. Alors je voudrais partir de là. Non pas du tout que j'adhère à ces positions de Cioran, mais partir de là pour commencer mon analyse. Je pense qu'il faut, avant de la critiquer, préciser cette pensée extrêmement répandue. Dans les temps modernes, il y a eu, je crois, deux grandes périodes, deux grandes formes que l'on peut distinguer assez aisément d'intolérance et de fanatisme. La première, celle qui inaugure les temps modernes, ce sont les guerres de religion. Les guerres de religion au XVIe siècle ont en effet entraîné une réflexion qui a rendu possible le droit politique classique, l'État tel que nous le connaissons, et plus tard encore la démocratie. C'est soulevé en quelque sorte par les horreurs du fanatisme religieux qu'un certain nombre de penseurs ont pu essayer d'élaborer la théorie moderne de l'État, la théorie libérale de l'État, un État qui au moins fournisse à l'individu la première des libertés, celle d'avoir la vie sauve. Toute la réflexion du droit classique se fait dans l'horizon et sous le traumatisme des guerres de religion, ce fanatisme-là. Le fanatisme dont ce siècle relève est un tout petit peu de ce siècle et le siècle précédent, et sans doute assez différent. Il ne s'agit plus, comme dans le cas des guerres de religion, d'une intolérance fondée sur le besoin de convertir, mais davantage d'une sorte de fanatisme que l'on peut qualifier provisoirement et entre guillemets de messianique, et qui consiste à annoncer l'ère des accomplissements, à promettre pour un temps très proche la fin de l'injustice, la réalisation totale de la justice sur terre. Autrement dit, la première forme de fanatisme semble ressortir à une volonté de conversion, et la seconde à une volonté, disons, de messianisme, à une volonté messianique d'accomplissement. Si on accepte cette dichotomie très, très grossière, cela voudrait dire que le judaïsme, pour une part, est impliqué dans la deuxième forme de fanatisme. Dans la première, non. Les guerres de religion se sont faites sur le dos des juifs, sans les juifs. Puisque chacun sait, même les plus ignorants d'entre nous, que le prosélytisme n'est pas la tâche majeure que les juifs s'assignent à eux-mêmes. qu'il n'y a pas dans le judaïsme de commandement de conversion des infidèles. En revanche, on peut dire, et beaucoup de commentateurs l'ont dit, qu'au fond, l'idée révolutionnaire n'a fait que capitaliser, accaparer et peut-être dévoyer toute cette espèce de sensibilité, toute cette tradition messianique accumulée dans le judaïsme. Et beaucoup se sont fait fort, justement, d'insister sur les origines juives d'un certain nombre de grands doctrinaires, de grands penseurs de la Révolution. Il y a dans le judaïsme une sorte d'énergie messianique que la Révolution aurait, d'une certaine manière, confisquée à son profit. Et si l'on admet ce schéma, il faudrait dire, non pas comme Suran, que l'histoire est un défilé de faux absolus, opposer comme ça l'attitude religieuse à l'attitude de cynisme et d'indifférence, cette opposition est trop grossière, mais dire qu'il y a eu effectivement dans les temps modernes deux formes particulièrement terribles et traumatisantes d'intolérance et de fanatisme. La première, qui s'est cristallisée autour des guerres de religion, entre les croisades et les guerres de religion, où c'était la poursuite de l'infidèle ou la poursuite de l'hérétique, et la deuxième, qui a pris une forme révolutionnaire et qui était inspirée par une sensibilité messianique. Et il faudrait dire à ce moment-là que, d'une certaine manière, le judaïsme, sous ses formes profanes ou perverties, est impliqué dans la deuxième forme, alors qu'il ne l'est pas dans la seconde. D'autre part, justement pour contredire ce que je viens d'affirmer maintenant, la réflexion sur le fanatisme a été, entre le XVIe et le XVIIe siècle, non seulement l'occasion d'élaborer la théorie moderne de l'État, mais quasiment l'occasion de réinventer la philosophie. On a assisté effectivement à l'aube des temps modernes à une émancipation de la philosophie. La philosophie, et c'est ce qui définit d'une certaine manière les temps modernes, n'étant plus considérée comme la servante de la théologie, mais affirmant son autonomie plénière, sa totale indépendance intellectuelle. C'est le sens du traité théologico-politique de Spinoza, qui dit il y a d'un côté la théologie, de l'autre la philosophie. Là, la Bible nous enseigne la vertu d'obéissance à un certain nombre de préceptes. Pour le reste, il s'agit de laisser se déployer la lumière naturelle dans tout son éclat, dans toute sa liberté. Et ce partage des rôles entre religion et philosophie, né d'une réflexion sur les guerres de religion, peut apparaître aujourd'hui comme une sorte de réinvention de la philosophie. Les Grecs ont inventé la philosophie quand ils ont distingué le logos du mythe. Les temps modernes européens ont d'une certaine manière retrouvé ou réinventé la philosophie quand ils ont essayé justement de l'émanciper de la théologie et de la religion. Mais aujourd'hui, on assiste curieusement à un phénomène différent, c'est-à-dire nous, les moments que nous sommes en train de vivre sont caractérisés sur le plan de la méditation, sur le plan de la pensée, je crois, par précisément une réflexion sur le fanatisme de notre siècle. Comment cela a-t-il été possible? Pourquoi ce messianisme-là a-t-il donné un tel désastre humain? Et cette réflexion engendre non pas ce que l'on devrait appeler un retour à la religion, ce terme, je crois, doit être, enfin tous ces termes-là doivent être manipulés avec beaucoup de précaution, mais en tout cas, et pour les Juifs c'est très clair, une réévaluation fondamentale de l'héritage qu'on appelle religieux. Autrement dit, si beaucoup de Juifs aujourd'hui retrouvent contact avec le judaïsme, c'est pour s'être perdu pendant quelque temps dans les impasses, dans les folies du messianisme révolutionnaire. Il y a donc là, si vous voulez, un phénomène non pas contradictoire, mais assez différent de ce qui s'est passé à l'aube des temps modernes, c'est-à-dire que la réflexion sur le fanatisme à l'aube des temps modernes a conduit à isoler, à essayer de réduire l'influence religieuse pour que renaisse la réflexion philosophique. Aujourd'hui, au contraire, la réflexion sur le fanatisme moderne entraîne une réévaluation de l'héritage religieux, de la tradition que l'on dit religieuse. Réévaluation qui s'accompagne ou ne s'accompagne pas d'une foi en Dieu. Il s'agit là d'un phénomène un petit peu différent. Alors, je voudrais essayer, assez brièvement, d'expliquer un petit peu ce paradoxe. Et alors, pour mieux faire comprendre l'un des aspects fondamentaux de ce que j'ai appelé dans le titre la logique interne du messianisme révolutionnaire, je voudrais lire un texte terrible, récemment paru dans le Nouvel Observateur, qui pourrait, si vous voulez, appartenir à la rubrique des faits divers et qui me paraît pourtant, dans ce qu'il a justement d'odieux, d'exagéré, terriblement révélateur. Il s'agit d'un article consacré aux dernières actions des Brigades Rouges. L'un des derniers attentats terroristes commis par cette organisation aujourd'hui moribonde. Ça se passe le 29 janvier 1983 et il s'agit de l'assassinat de la gardienne de prison Germana Stefanini. Elle a 57 ans. Elle a été embauchée à la maison de peine de Rebibbia pour la distribution de paquets aux détenus. Elle s'est embauchée parce qu'elle était très pauvre. Et elle est enlevée par, disons, une des petites cellules, un des petits groupes des brigades rouges ou des brigades rouges résiduelles, faut-il dire, et elle est jugée, le jugement étant enregistré au magnétophone, parce qu'elle accomplit une fonction répressive, entre guillemets bien sûr, sur la peau des prolétaires communistes prisonniers. Voilà le dialogue, une partie du dialogue, tel qu'il l'article du Nouvel Observateur le restitue. Comment es-tu entrée comme gardienne à Rebibbia? Parce que je ne savais plus de quoi vivre, mon père venait de mourir. Tu as passé un concours? Non, je suis entré comme invalide. Que faisais-tu? Je distribuais des paquets aux détenus. Et puis cette phrase, arrête donc de chialer, phrase d'un des juges, de toute façon on s'en fout, je te répète, arrête, tu ne nous aimes pas du tout. Et le jugement est rendu et on entend le coup de feu qui exécute, si j'ose dire, la sentence du tribunal révolutionnaire et qui tue donc cette gardienne de prison, Germana Stefanini, de 57 ans. Évidemment, là, nous avons, si vous voulez, la logique révolutionnaire arrivée à son comble d'absurdité. Une femme pauvre, une victime de la vie, est assassinée pour exercer sur le dos des prolétaires une fonction répressive. Ces prolétaires ne sont qu'une abstraction dans le cerveau des brigadistes, et en même temps, cette abstraction est assez forte pour retourner la situation et pour provoquer un assassinat absolument arbitraire. Et l'on peut dire qu'il y a quelque chose de malhonnête à analyser une logique, justement, en prenant un exemple aussi périphérique et aussi exagéré. Pourtant, je crois que cette anecdote a quelque chose d'extraordinairement révélateur dans le rapport, justement, qui se tisse entre Germana Stefanini et ses bourreaux. Ses bourreaux ne la voient pas. Ils ne la voient pas, ils ne voient que l'idée qu'elle représente. Il ne voit que l'abstraction qu'elle incarne. Il ne voit que la force dont elle est porteuse. Alors on peut dire, il se trompe, cette femme qu'il juge pour accomplir des fonctions répressives est sans doute beaucoup plus prolétaire qu'eux. Ce qui est absolument inouï. Il juge au nom du prolétariat une prolétaire alors qu'ils n'en sont pas. Mais le vrai mécanisme ou le vrai scandale n'est pas là. Ça, c'est une sorte de scandale surajouté au scandale premier. Le vrai scandale consiste à réduire un être à une abstraction, à faire d'un visage humain le symbole ou l'émanation de quelque chose d'autre. Et nous voyons que cette intolérance, là, est tout à fait inattendue. Parce que quand on parle d'intolérance, on dit l'intolérance, c'est la rage d'exclure. Qu'est-ce qu'un homme intolérant ? C'est quelqu'un qui refuse la différence. C'est quelqu'un qui n'accepte que le monde où il vit, le monde comme il va, et qui repousse, rejette tout ce qui est inhabituel. C'est quelqu'un qui n'accepte que ce qui est semblable à lui, et qui n'accepte l'autre lorsqu'il consent à devenir semblable. L'intolérance considérée donc comme rage d'exclure. Ici, nous avons une autre intolérance, un autre fanatisme, un fanatisme beaucoup plus moderne, qui est justement la rage d'inclure, qui est justement le fait d'englober tous les hommes dans un schéma historique dont ils sont les acteurs. Le fait de soumettre l'histoire humaine à une rationalité inexorable, de faire du monde une sorte de système, une sorte de totalité absolument exhaustive où chacun a sa place et où chacun joue son rôle à point nommé. Le fait de réduire le visage à un rôle.